Le ministre iranien du pétrole confirme que la question du corridor de transit nord-sud de l'Iran est d'une importance économique et politique majeure pour l'Iran et la Russie. De retour dans son pays, le ministre iranien du pétrole, Javad Oji, a détaillé sa visite en Russie. Nous avons eu de nombreuses et très intenses rencontres avec le vice-premier ministre russe et le ministre russe de l'énergie, ainsi qu'avec plusieurs chefs d'entreprises puissantes. Heureusement, le ministère du pétrole avait pris l'initiative de préparer un plan d'ensemble et une feuille de route complète pour les quatre principales compagnies. Les Russes se voient donc proposer des projets de développement et de gisements pétroliers et gaziers, de construction de raffineries, de pétrole, d'unités de raffinage et de transfert de technologies. Concernant ces entretiens avec des chefs d'entreprises russes actifs dans le domaine du pétrole et du gaz, le ministre du pétrole iranien a précisé que certaines négociations ont abouti à des accords très importants. Les accords signés au cours de cette visite favoriseront notre industrie pétrolière, parce que l'Iran et la Russie sont des acteurs puissants dans le domaine de l'énergie. Notre coopération ne peut qu'être fructueuse pour les deux parties, a-t-il souligné. Quant aux échanges gaziers entre la Russie et l'Iran, voici le bilan de cette rencontre entre les deux pays voisins. Cette rencontre a également porté sur l'échange de gaz russe avec l'Iran. Ces derniers mois, un échange de gaz du Turkménistan vers l'Azerbaïdjan via l'Iran a été réalisé. La même proposition a été faite à la Russie d'échanger son gaz de l'Azerbaïdjan vers le sud de l'Iran pour l'exporter vers n'importe quel coin du monde. En marge de ces rencontres, le ministre iranien et président de la commission mixte Iran-Russe s'est également entretenu avec son homologue russe. Constatant l'hostilité croissante de l'Union européenne à son encontre, la Chine a réagi en dénonçant une ingérence grossière dans les affaires intérieures du pays. Pékin a réagi vendredi 21 janvier à l'adoption la veille par l'Assemblée nationale française d'une résolution reconnaissant le caractère génocidaire des violences contre les Ouïghours. Cela constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine s'y est fermement opposée, a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Jeudi, le site internet de l'ambassade de Chine s'est contenté de publier une question-réponse du porte-parole de l'ambassade. Un procédé qui permet de préciser en la matière que la résolution est non contraignante. Mais finalement, la réponse officielle chinoise indique sans surprise que la Chine condamne fermement cette résolution qui ne repose que sur de purs mensonges. Elle ajoute que la Chine a également exprimé ses sérieuses inquiétudes quant au fait que la résolution concernée porterait gravement atteinte aux relations sino-françaises ainsi qu'à la crédibilité et l'image de la France aux yeux des Chinois. Pour sa part, la partie française est pleinement consciente de l'absurdité et de la nocivité de cette résolution. Elle doit faire preuve de cohérence entre ses paroles et ses actes et prendre des mesures concrètes pour sauvegarder le développement sain des relations sino-françaises. Toutefois, la Chine fait preuve dans sa réaction d'une relative mansuétude. C'est qu'elle constate que l'Union européenne lui est de plus en plus hostile et qu'elle s'exprime de plus en plus fortement sur la question du Xinjiang, mais aussi de Taïwan. Or, dans son contexte, la France fait partie des pays les plus modérés. Le président français Emmanuel Macron, comme l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel et semble-t-il son successeur Olaf Scholz, se contentent de critiques suffisamment modérées pour ne pas rompre le dialogue avec Pékin. Les autorités chinoises l'ont parfaitement compris. La preuve en est l'accueil qu'elles ont réservé jeudi 13 janvier à Emmanuel Bonn, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. De façon tout à fait inhabituelle, celui-ci s'est rendu très discrètement en Chine. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, et a eu par visioconférence un entretien avec Wang Qishan, vice-président chinois et proche de Xi Jinping. Contrairement à la France, la Chine n'a pas manqué de médiatiser cette visite. Le communiqué chinois le témoigne d'aucune divergence entre les deux pays. Déjà à l'automne 2021, la Chine n'avait que modérément réagi aux visites de sénateurs puis de députés français à Taïwan malgré le soutien du Quai d'Orsay. L'Iran, la Russie et la Chine ont lancé un exercice militaire conjoint intitulé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » dans le nord de l'océan Indien. Le contre-amiral Mustafa Tajedini, porte-parole de l'exercice naval combiné trilatéral intitulé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » a déclaré « L'exercice s'est terminé par un défilé naval d'unités participantes devant le destroyer iranien Dena dans le nord de l'océan Indien ». Lors de la cérémonie de clôture de l'exercice, tous les navires participants à l'exercice appartenant à la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique et à la marine de Chine et de Russie ont défilé devant le destroyer Dena. L'exercice a impliqué une variété d'équipements navals, y compris les destroyers Dena et Jamaran. De la marine du Segeri, le destroyer Oronki de la marine chinoise et le destroyer Admiral Tribu de la marine russe. Les navires de guerre iraniens, chinois et russes ont tiré avec succès sur des cibles navales. Au cours de la phase principale de l'exercice, les unités navales et aériennes de la marine des trois pays, sur la base d'un scénario prédéterminé, ont mené des opérations pour libérer de navires marchands détournés par des pirates dans les eaux internationales, a indiqué le contre-amiral Mustafa Tajedini, porte-parole de l'exercice naval. Après avoir reçu un message d'urgence des navires détournés, les hélicoptères de la marine de l'armée ont d'abord identifié et fouillé la zone d'opération. Puis le destroyer Jamaran, qui commandait l'exercice, a expédié des navires de combat stationnés dans la zone pour mener à bien l'opération de libération, a-t-il indiqué. Après l'opération de lutte contre les incendies du navire et les forces spéciales de l'armée et du Segeri, avec la participation des forces spéciales de Chine et de Russie, ont atterri sur le pont du navire détourné et ont arrêté les pirates et effectué l'opération pour libérer le navire, a noté M. Tajedini. Soulignant que la présence de la République islamique d'Iran dans les eaux internationales indique une position et un statut élevé du pays sur la scène internationale, M. Tajedini a déclaré que le rétablissement de la sécurité régionale et internationale est très important pour l'Iran et que pour cette raison, la marine du pays ne permettra jamais la concrétisation d'une quelconque menace dans le secteur maritime. À ce stade de l'exercice des unités de navires d'Iran, de Chine et de Russie, sous le commandement du destroyer iranien entièrement local, Jamaran ont tiré des armes de calibre 20 mm sur des cibles de surface prédéterminées en mer. Plus précisément dans le nord de l'océan Indien, a déclaré le contre-amiral Mustafa Tajedini. De plus, à l'étape suivante, l'exercice Forte X, y compris la formulation et l'arrangement offensif des unités participant à l'exercice a été mené conformément aux menaces dans la région, a-t-il ajouté. L'amiral Habibullah Sayari, coordinateur adjoint de l'armée, a déclaré « L'importance de l'exercice combiné de ceinture de sécurité maritime 2022 réside dans la mise en œuvre de divers buts, y compris l'établissement de la sécurité du commerce maritime dans le nord de l'océan Indien. » La coordination plus étroite entre les marines des pays régionaux et transrégionaux et l'échange d'expériences maritimes en matière de secours en cas d'accident maritime. La tenue de cet exercice organisé et commandé par l'Iran montre que les forces de l'armée et du Segeri ont atteint une très bonne capacité visant à renforcer et maintenir la sécurité dans le nord de l'océan Indien et la mer de Man, a annoncé l'amiral Habibullah Sayari. Le coordinateur adjoint de l'armée a ajouté « L'exercice combiné de la ceinture de sécurité maritime 2022, qui est mise en œuvre pour la troisième fois, est un signe du développement de la profondeur stratégique et de la promotion de la position internationale de la République islamique d'Iran en diverses zones maritimes. » Alors que le contrat de coalition en Allemagne annonçait la nécessité de moderniser l'armée fédérale et de consacrer 3% du PIB en faveur de l'action extérieure, la nouvelle ministre de la Défense, Christine Lambertz, a tenu un discours le 14 janvier dernier qui voit ses ambitions à la hausse. Comment expliquer une telle décision de la part de la ministre? Avec quelles conséquences au niveau européen? Le point avec Jacques-Pierre Goujon, professeur des universités germanistes, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, directeur de recherche à l'IRIS où il dirige l'Observatoire sur l'Allemagne. La nouvelle ministre de la Défense allemande a retenu l'attention récemment par un discours important. Que peut-on en dire? La nouvelle ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, a prononcé le 14 janvier dernier devant le Parlement fédéral un discours très offensif qui a marqué les esprits en Allemagne jusqu'à faire la une de certains journaux comme le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 15 janvier pour trois raisons majeures, avec bien entendu une implication pour les partenaires européens. En tant que ministre de la Défense social-démocrate, elle a tout d'abord défendu avec ardeur une augmentation importante du budget de la défense en la justifiant par l'extension des missions extérieures de l'armée fédérale liées à la responsabilité de l'Allemagne en faveur de la paix en Europe et dans le monde, et au fait que notre sécurité en Europe et au-delà soit confrontée actuellement à de grands défis. Elle a ensuite reconnu ce que plusieurs rapports ont dénoncé dans un passé récent, à savoir le mauvais état des équipements de l'armée fédérale qui la rend vulnérable sur le terrain d'opération, comme cela fut maintes fois constaté en Afghanistan. Le troisième point qui doit être souligné, c'est qu'il s'agit d'une ministre social-démocrate identifiée à l'aile gauche de son parti, ce qui marque une évolution importante des mentalités en Allemagne dans le rapport à l'armée fédérale. Il faut le rappeler, l'armée fédérale a été créée au lendemain de la guerre, le 12 novembre 1955, dans un climat de suspension intérieure et extérieure due au passé, tout en bénéficiant d'un fort soutien américain. C'est une évolution capitale outre-Rhin. Le rapport à l'armée fédérale est bien sûr la voie de la normalisation, sans que cela ne fasse grand bruit. D'ailleurs, dans une étude de la Fondation Corbeil de juin 2021, 49% des Allemands se déclaraient favorables à une augmentation du budget de la défense, 45% défavorables et 6% sans opinion. Dans un pays où le sujet reste inflammable, avec des éléments de culture pacifiste encore marqués chez une partie des sociodémocrates et chez les Verts et toujours présents dans le débat public, ces chiffres méritent d'être relevé. On notera enfin que les déclarations de la ministre vont plus loin sur ce sujet par rapport au contrat de coalition qui évoquait seulement la nécessité de moderniser l'armée fédérale et de consacrer 3% du PIB en faveur de l'action extérieure permettant à l'Allemagne de renforcer sa diplomatie ainsi que son aide au développement et de remplir ses engagements au sein de l'OTAN. Quel est le profil de la nouvelle ministre? Christine Lambrecht, 56 ans, est à l'origine une juriste avocate et a commencé sa carrière politique comme élu local, avant de devenir députée au Parlement fédéral en 1998, puis vice-présidente du groupe parlementaire social-démocrate et à partir de 2018, secrétaire d'État parlementaire au ministère des Finances, dont le titulaire était alors Olaf Scholz. Ce dernier a apprécié sa rigueur et son sens politique, les secrétaires d'État parlementaires étant en Allemagne des représentants politiques directs du ministre au Parlement fédéral et dont que des rouages essentiels dans les relations du ministre avec son groupe et plus généralement la sphère parlementaire. Devenue en 2019 ministre fédérale de la Justice, elle a acquis une dimension nationale, notamment en ayant une attitude très ferme face à l'extrême droite, dont elle a régulièrement dénoncé les agissements et les manipulations, et en s'engageant dans la lutte contre la maltraitance des enfants. En 2022, elle avait même enjoint le ministre de l'Intérieur de l'époque d'être plus offensif dans le combat contre le racisme dans la police et de recevoir la formation des policiers. Si la ministre n'a pas d'expérience marquée dans le domaine de la défense, elle a su s'entourer de deux secrétaires d'État sociaux-démocrates reconnus pour leurs compétences en la matière, Thomas Hischler et Cynthia Moller. Il est évident que sa proximité avec le chancelier Olaf Scholz est également un atout, sachant que les grandes décisions en matière de défense remontent au chancelier qui, selon la Constitution, n'est certes chef des armées qu'en temps de guerre, mais demeure dans la réalité décisionnaire, sans oublier qu'en Allemagne, le rôle du Parlement fédéral est central. Dans quel contexte se déroule la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Défense? Pour la première fois en 2022, le budget de la défense allemande dépasse les 50 milliards d'euros, budget arrêté par le précédent gouvernement impliquant une forte augmentation entre 2021 et 2022. Ces 50,3 milliards d'euros se situent dans la continuité d'une augmentation constante et progressive depuis 2015, alors qu'avant cette date, le budget de la défense avait marqué un recul de certaines années. Certes, le nouveau budget de la défense ne représente qu'à 1,5% du PIB contre 2,1% pour la France et 2,2% pour la Grande-Bretagne, encore loin des 2% requis par l'OTAN. C'est une évolution importante qui a une incidence directe pour les partenaires européens, en premier lieu la France. Ainsi, la coopération franco-allemande en matière d'armement se présente sous un ciel plus clément, notamment en ce qui concerne le système de combat aérien du futur SCAF qui prévoit un financement à parité entre Paris et Berlin. De manière plus globale, il ne faut d'ailleurs jamais oublier que l'Allemagne est un exportateur important en matière d'armement, ayant représenté entre 2016 et 2020 5,5% des parts de marché des armes conventionnelles dans le monde. Derrière la France avec 8,2%, mais devant la Grande-Bretagne avec 3,3%. Il faudra d'ailleurs suivre l'évolution de la législation allemande en matière d'exportation d'armement. Le contrat de coalition stipulant la volonté de mettre en place une politique d'exportation d'armement plus restrictive, certes en concertation avec les partenaires européens. De même, il sera sans doute plus aisé d'aborder la question de la défense européenne toujours dans les limbes. Dans ce contexte d'augmentation forte du budget de la défense allemand, avec l'exercice par la France de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le sujet est de nouveau d'actualité. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, un sioniste déclaré, pousse les États-Unis vers la guerre contre la Russie. Une guerre dont l'unique bénéficiaire est Israël. En d'autres termes, Blinken déclare la guerre aux Américains. Plusieurs sources du département d'État américain, citées par l'AFP et Reuters, ont rapporté ce 20 janvier depuis Berlin, où le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a démarré des entretiens sur l'Ukraine avec les Européens, que Washington accélérait les transferts autorisés d'équipements d'origine américaine provenant d'autres alliés. Cette annonce survient à la veille d'une rencontre à Genève entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue américain, alors que Moscou s'inquiète face au soutien militaire occidental apporté à son voisin ukrainien. La demande, qui concerne des transferts d'armement, dont des missiles, selon Reuters, provenait de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie, tous membres de l'OTAN. Moscou dénonce des menaces incessantes. Washington et ses alliés occidentaux accusent la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, un scénario brandi depuis des mois, malgré les multiples démentis de Moscou. Des déclarations contenant des menaces à l'égard de la Russie, annonçant que pour certaines actions politiques, la Russie devrait payer le prix fort, sont prononcées tous les jours. Depuis un mois au minimum, a noté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ce 20 janvier en conférence de presse, s'inquiétant que ce type de déclaration puisse favoriser une déstabilisation de la situation en insufflant des espoirs absolument erronés dans les têtes brûlées de certains représentants de l'Ukraine. La veille, le président américain Joe Biden avait déclaré « Ce sera un désastre pour la Russie si elle envahit davantage l'Ukraine ». Il avait également mis en garde contre de lourdes pertes humaines sur le champ de bataille et des sanctions sévères sans précédent contre l'économie russe. S'ils envahissent, ils vont le payer. Ils ne pourront plus passer par les banques ils ne pourront plus faire de transactions en dollars, avait menacé le locataire de la Maison Blanche. Le même jour, Londres a annoncé avoir commencé à fournir à l'Ukraine des armes défensives légères, précisant que celles-ci ne représentaient aucune menace pour la Russie. Cette livraison d'armes fait écho aux propos tenus sur CNN le 16 janvier par Dmitri Peskov, selon qui le soutien militaire apporté par l'Alliance Atlantique à l'Ukraine constituait une menace imminente, tant pour la Russie que pour la sécurité de l'ensemble du continent européen. Un soutien bien réel sous la forme de l'envoi d'instructeurs militaires et d'armes, tant défensives qu'offensives.